Aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelques pensées sur la bien-aimée, l'épouse du Seigneur, et j'ai nommé l'Église, son Église. Elle est sa protégée et non celle des hommes. Elle est sa protégée. Et le titre de mon message est très simple, « Mon Église ». J'aimerais que vous puissiez prier avec moi. Seigneur, je te bénis d'être ici devant toi et je te remercie pour ton Église. Aussi défiante qu'elle est, elle est merveilleuse parce que tu l'as souhaitée. Seigneur, j'ai besoin de ton aide, Saint-Esprit. Viens et parle à travers moi, que je sois ton outil, Seigneur, afin que tu te glorifies, Seigneur, ici, au milieu de tes enfants. Et que beaucoup puissent reconnaître que cette Église est pour ta gloire, Seigneur, et seulement pour ta gloire. Et que ceux qui rentrent, Seigneur, aujourd'hui, soient convaincus que Dieu règne dans ce lieu. Et qu'à lui seul, Seigneur, à toi seul, soit la gloire dans ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. C'est mon Église. Ça nous arrive de dire ça, c'est mon Église. On est d'accord, la plupart des gens, tu vas où? Ah, c'est mon Église ici. L'Église de Réveil, c'est mon Église. C'est gentil, mais en même temps, c'est une erreur. J'aimerais vous rappeler, c'est l'Église de Jésus. C'est l'Église de Jésus. Je vais à celle qui s'appelle le Réveil, mais c'est l'Église de mon Dieu. C'est l'Église du Dieu vivant. Elle appartient à Jésus-Christ. Nous devons nous rappeler qu'elle appartient au Seigneur. Et à lui seul. Et pour cette raison, nous devons en prendre soin et chercher à lui laisser la place d'agir pleinement. D'accord ? On doit en prendre soin parce que c'est la sienne. On chérit les choses de notre papa. On en prend soin. On en prend soin. Car si l'Église existe, c'est parce que Dieu avait un plan et a toujours un plan pour elle. Un plan merveilleux. Afin que sa gloire se manifeste à travers elle. Amen. Moi, je désire de tout mon cœur. Aujourd'hui, je vois des bancs moins remplis que la semaine dernière. Ils devraient être plus remplis parce qu'ils ont été convaincus de ce que Dieu peut faire. Ils devraient être encore plus remplis. Et vous-même, et je veux pas vous, j'aimerais vous solliciter, vous encourager. Vous auriez dû prendre quelqu'un. Regarde ce que Dieu fait. Viens dans l'Église du Seigneur. Il va toucher ta vie. Parce que Dieu a un plan pour son Église. L'Église, projet divin fondé en l'an 30 après Jésus-Christ, plus ou moins, fondateur, Dieu le Père, président Jésus-Christ, CEO, le Saint-Esprit. L'Église n'est pas un projet humain, c'est un projet divin. Un projet divin. Je peux vous dire, quand je vois la multitude de personnes différentes qui est ici et qui reste encore ici, qui ne se bat pas, gloire à Dieu, Dieu existe. Parce que sinon, ça ne marcherait pas. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Jésus va s'adresser à Pierre. Matthieu 16, verset 18, il va lui dire, sur ce rocher. On ne va pas épiloguer sur le rocher, il y a plusieurs interprétations, mais ce qui suit va dire, je construirai mon Église. C'est très clair. Jésus va dire, sur ce rocher, confession de foi, Pierre, on peut dire, où Jésus-Christ étant le rocher, je construirai mon Église. Je, Jésus, Dieu, construira son Église. Et ici, l'information n'est pas ambiguë. Jésus nous dit clairement que c'est lui qui construira l'Église. Et c'est un élément extrêmement important dans notre conception de l'Église. Parce que malheureusement, bien souvent, on oublie, on donne la propriété de l'Église à des personnes, à des conseils, à des pasteurs extrêmement charismatiques, doués d'un fort leadership, et on pense que c'est leur Église, ça devient leur Église parce qu'ils l'ont fondée, ou du moins physiquement, mais elle appartient à Jésus. Amen. Elle appartient à Jésus. Et elle est le plan et le souhait de Dieu, construite non par la force humaine, mais par la puissance divine à travers le Saint-Esprit. Je me tourne vers Charouz et Cyril qui est là, qui a été extrêmement juste béni la semaine dernière. Si vous étiez à ce culte de baptême, j'ai été béni non seulement parce qu'il y avait beaucoup de jeunes, mais aussi de voir et d'entendre ce que Dieu fait. Cyril, convaincu par le Saint-Esprit, personne n'était là, personne de l'Église lui a parlé de Jésus, personne lui a parlé de l'Église de Réveil, en tout cas pas, mais le Saint-Esprit l'a convaincu. Charouz, de la même manière, il a été convaincu. Et ensuite, le Saint-Esprit les a conduits à l'Église de Réveil. n'est pas le pasteur Walter, ce n'est pas le pasteur Jean-Paul, ce n'est pas moi non plus, c'est le Saint-Esprit, parce que c'est lui le CEO de l'Église. Et c'est lui qui dirige et c'est lui qui bâtit. Nous en sommes témoins. Quel encouragement! Sachant que l'Église est le plan de Dieu, nous savons qu'il en prendra soin parce qu'elle lui appartient, si on lui laisse la place. Elle a beaucoup de valeur, elle a énormément de valeur à ses yeux. Elle lui a coûté sa vie. Je crois qu'on oublie ça. C'est par son sacrifice qu'il s'est acquis l'Église. C'est par son sang qu'il nous a acquis. Si ça, ce n'est pas de la valeur extraordinaire pour son Église, c'est par son sang, écoutez bien, acte 20, verset 28. « Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. » Ce n'est pas le sang des boucs, ce n'est pas le sang des humains, c'est le sang de Dieu, de Jésus. Et c'est par son sang qu'il s'est acquis l'Église. Et le prix a été très très, très fort. Elle était totale. Et c'est pour cette raison que tout lui revient. Tout lui revient. Ainsi, nous réalisons combien elle est précieuse aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi il faut vraiment en prendre soin. J'aimerais juste vous rappeler le mot église, ecclésia, nommé plus de 108 fois dans le Nouveau Testament et dont 90 fois qui se conforme et se rapporte à l'Église locale. Ecclésia, qui signifie « hors de », rassemblement des personnes qui sont hors de, séparées de, mises à part pour louer Jésus, mises à part dans leur confession de foi, reconnaissant que Jésus est le Messie, qu'il est Dieu, qu'il règne. Et c'est ça l'Église, c'est un rassemblement de personnes qui viennent adorer leur Dieu, à lui soit la gloire. Quand tu chantais ce chant, quand il y a eu ces interprétations, le seul truc que je pensais c'était, si seulement nos yeux étaient fixés sur Jésus quand on venait à l'Église, si tous nos cœurs et toute notre attention étaient sur Jésus, sa gloire se répandrait tellement puissamment qu'on serait tous par terre. Mais encore beaucoup d'entre nous, on vient en attendant quelque chose pour nous égoïstement, alors que c'est tout pour lui. Parce qu'il l'a acquise par son sang. Lorsqu'on vient à l'Église, on vient adorer Jésus. On se rassemble pour être à part. Jésus étant la pierre angulaire sur laquelle l'Église grandit. Pour faire simple, j'aimerais vous donner ma définition. L'Église, ce sont toutes les personnes qui reconnaissent Jésus comme étant le Messie, le Fils de Dieu, et qui se rassemblent pour l'adorer d'un commun accord. C'est pas beau ? Oui, hein ? Nous sommes l'Église ! Vous aviez déjà entendu ça, je pense, non ? Nous sommes l'Église. Ça fait un peu bizarre parce que tu as une Église comme ça, différente. Nous sommes l'Église. C'est vous l'Église. L'Église, j'aimerais vous rassurer, l'Église n'est pas le bâtiment. Elle n'est pas son architecture, aussi belle qu'elle peut l'être. Elle n'est pas ses lumières, ni même son pasteur, ni même ses leaders, ni même son conseil, mais un rassemblement de pierres vivantes. C'est beau, non ? Moi, je trouve que c'est beau. Rassembler pour être mis à part. Hors du monde, mis à part pour Jésus, en se conformant à sa parole et ses enseignements. Que ceux qui ont levé la main, la semaine prochaine, vous allez dire « Waouh, le Seigneur m'a révélé quelque chose de plus pour son Église. » Parce que si on vient à l'Église, si on se rassemble, on doit se conformer au plan divin pour son Église, pour nous. Et lorsqu'on se rassemble, Dieu peut agir pleinement parce qu'on se conforme à sa parole. C'est tellement simple. Tellement simple. Et comme je l'ai dit, dit comme cela, ça paraît super simple et magnifique, n'est-ce pas ? Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué. Non ? Oui, c'est un peu plus compliqué. Sachant que depuis la chute, depuis la désobéissance d'Adam et Ève, nous avons toujours voulu prendre la place de Dieu. Il est évident que cela s'est aussi passé au milieu de l'Église. Cherchant à vivre, construire l'Église selon nos perceptions, nos désirs et nos interprétations bibliques. L'humain construit l'Église au lieu de laisser Dieu la construire. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui autant de différences entre les Églises. Et laissez-moi vous dire quelque chose de triste, et si peu d'entre elles qui vivent la puissance de Jésus. Si peu. Si peu. Et je prie le Seigneur qu'on devienne une Église où le réveil n'est pas juste une fois tous les 60-70 ans, mais qu'il soit quotidien. Le réveil dans notre vie personnelle, et qui se propage lorsqu'on est ensemble. une église vivante. Parce qu'on a un Dieu vivant. Aujourd'hui, les ténèbres se répandent et se propagent. Le diable, il n'est pas en train d'attendre que l'église se réveille. Il fait tout ce qu'il peut pour en prendre le plus possible. Si l'église ne répond pas, si elle ne laisse pas la place à Dieu et la puissance du Saint-Esprit, le diable va faire tout ce qu'il peut pour faire mourir l'église. Tout ça pour des désirs de gloire humaine. L'image et la définition de l'église actuelle ne sont que le pâle reflet de ce que Dieu souhaite pour son peuple. L'homme ayant décidé de la construire bien souvent, sans obéir et laisser la place au Saint-Esprit, cherchant sa gloire et non celle de Dieu. Si on devait poser la question à des gens dans la rue, qu'est-ce que l'Église pour toi ? Les réponses seraient nombreuses, et je pense pour la plupart malheureusement négatives. L'Église, c'est des gens qui te prennent ton argent. L'Église, c'est des comptes religieux. L'Église, c'est un endroit où t'es jugé, etc., etc. Peu de gens, malheureusement, diraient « L'Église, c'est un lieu où je suis restauré, un lieu où je suis transformé, un lieu où la puissance de Dieu agit, un lieu où je retrouve mon identité, celle d'enfant de Dieu, choisi, aimé, avant la création de la terre. » C'est une triste réalité, mais nous ne décourageons pas, s'il vous plaît, car Dieu est fidèle. Et si nous lui laissons la place, il est certain qu'il agira pour manifester sa gloire dans son Église. J'aimerais le répéter, l'Église est son plan. Et son plan est bon et parfait pour ceux qui lui font confiance, pour ceux qui se remettent dans sa direction. Il faut donc accepter de dire que l'Église, la communauté des pierres vivantes, vous et moi, a pour but de grandir dans la ressemblance à son fondateur par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Celui qui nous enseigne, c'est le Saint-Esprit. On a parlé de la Pentecôte il n'y a pas longtemps. En plus, c'est moi qui ai parlé le soir. La Pentecôte est la naissance de l'Église. La Pentecôte est le moment où le Saint-Esprit a dit « C'est moi qui vais créer cette chose hors du commun. C'est moi qui vais vous apprendre à être ensemble. C'est moi qui vais vous enseigner comment vivre mon Église. Comment me représenter. » Parce qu'avant ça, c'est sûr, les humains et les disciples étaient incapables. Mais lorsque la Pentecôte est arrivée, lorsque le jour où le Saint-Esprit est descendu, à ce moment-là, l'Église a démarré. À ce moment-là, l'Esprit est venu et a dit « Je vais vous enseigner comment vive l'Église. Et c'est moi qui vais la faire grandir à travers ma puissance. » Le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. Le Paraclétos, c'est lui qui fonde l'Église. Et on doit s'humilier pour le laisser faire, non selon nos désirs, mais selon ses désirs, qui sont bien souvent, et on le sait, très opposés à notre manière de voir les choses. Ésaïe 55, si vous voulez vérifier, ses pensées sont très éloignées de les nôtres. Donc c'est important de dire, ok, je me soumets, je te laisse diriger ton Église comme tu le souhaites. Dieu souhaite que nous puissions grandir dans notre foi et devenir des chrétiens matures, des disciples prêts à enseigner sa parole avec assurance à ceux et celles auprès de qui Dieu nous conduira. Lorsque vous venez à l'église, vous ne venez pas juste pour manger du pain aujourd'hui, vous venez pour en prendre, pour le partager. C'est le rôle de l'église locale. C'est le lieu où celles et ceux qui croient, ainsi que ceux qui désirent connaître Jésus, se retrouvent afin de partager leur passion, leur foi, et s'encouragent dans leur marche spirituelle. C'est ça, lorsqu'on se retrouve ici. On vient s'encourager. On vient chercher Jésus ensemble. Et vous savez quoi ? Ça demande la persévérance. Vous êtes d'accord avec moi ? Il faut persévérer. Si tu viens juste 2 mois à l'église, peut-être pour ces 2 mois, tu n'auras pas entendu les messages que tu voulais entendre, tu n'auras peut-être pas chanté les chants que tu voulais entendre, mais persévère un peu. Laisse Dieu agir. Persévère un peu. L'amour persévère. Si tu aimes ton Dieu, persévère. Fais-lui confiance, il agira. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. L'Église grandit à travers la persévérance dans la prédication, dans la communion fraternelle, dans le partage de la Sainte Cène, de la communion, le partage du pain, la fraction du pain et dans la prière. Ce sont là quelques éléments importants que Dieu utilise pour faire grandir son peuple dans sa ressemblance. C'est quelques éléments, mais s'ils sont marqués, je pense que c'est important de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire. La prédication de la parole a un rôle fondamental pour notre croissance spirituelle. J'en suis plus que conscient, je peux vous le dire. Car nous savons que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous venez ici et que je ne vous parle pas de la parole de Dieu, vous allez repartir vide. Votre foi n'aura pas grandi. L'enseignant, le prédicateur, le pasteur qui sera au devant de la chaire doit prendre son temps, chercher la parole de Dieu, se mettre à genoux, prier, intercéder pour que seul le pain vivant puisse être proclamé lorsque l'assemblée se retrouve, afin que vous puissiez entendre la parole de vérité, celle qui produit un fruit de changement dans vos vies. Quelle responsabilité! Quelle responsabilité! L'Église est le pilier et le soutien de la vérité. 1 Timothée 3, verset 15. Elle est le pilier et le soutien de la vérité. C'est ici que la vérité doit être proclamée, sans compromis. C'est notre responsabilité. Mais je pense que les paroles qui ont été données ce matin vont largement dans le sens de ce que je vais dire maintenant. Mais votre responsabilité, mes chers frères et sœurs, est de continuer de creuser les Écritures durant le reste de la semaine. Pratiquer et approfondir ce que vous avez reçu le dimanche. Sinon, vous ne grandirez pas vraiment. Vous ne deviendrez pas indépendant, autonome dans votre spiritualité, dans votre foi. Vous aurez toujours besoin de quelqu'un pour vous donner le pain. Le pain de vie a été donné pour chacun de ceux qui croient. Ce pain est accessible pour toi aujourd'hui. La parole est là pour toi. Mais si tu ne l'ouvres pas, et que tu t'attends seulement une fois par semaine au message, est-ce que tu jeûnes pendant le reste de la semaine de nourriture ? Laissez-moi. Est-ce que vous jeûnez, vous mangez juste le dimanche matin pendant 2 heures, et le reste de la semaine, vous jeûnez ? Non ! Donc c'est la même chose pour la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que vous venez ici, que vous entendez un message pendant 40 minutes, etc., hein, que ça va vous suffire pour le reste de la semaine. Sûrement pas. Sûrement pas. Et pour illustrer, je me suis amusé à dire, si vous allez prendre un cours de cuisine, on est d'accord, peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà fait, c'est pour progresser dans la cuisine, non ? C'est pas juste pour aller manger, parce que sinon tu vas au restaurant, d'accord ? Donc c'est la même chose, si tu viens à l'église, c'est pas juste pour manger un petit peu, c'est pour apprendre à cuisiner, c'est pour apprendre à lire la parole, c'est pour te responsabiliser, parce que tu auras des comptes à rendre quand Jésus reviendra. Et c'est pas moi j'aurai ma responsabilité, c'est clair, je devrais rendre des comptes sur ce que je vous ai apporté comme message. Mais vous serez devant Dieu. Je ne pourrais pas dire, oui, il est venu le dimanche. Il est même venu le mardi. Et même des fois, il venait à la réunion de prière. Mais c'est toi qui devras rendre des comptes devant Jésus. Toi seul, tu seras seul devant Dieu. Ta foi seule te sauvera. Et ta connaissance. Notre désir est semblable à ce cours de cuisine. On doit se rassembler pour grandir dans notre foi et notre ressemblance à Christ. Devenir mature et autonome. Ensemble, on grandit mieux et plus vite. Le fer aiguise le fer. Si tu es tout seul avec ton fer, tu vas l'aiguiser comment ? Lorsque je parle avec le pasteur Walter, avec le pasteur Jean-Paul, on s'aiguise et tout. Je lui dis « Ah, t'es sûr, pasteur Walter ?» et tout. « D'accord, moi je ne suis pas d'accord, mais bon, en fait, c'est pas grave. » Alors la parole dit ça. On argumente avec passion, avec amour, toujours en laissant Dieu se glorifier. Mais on s'aiguise, on s'encourage. Le fer aiguise le fer. C'est le rôle de l'Église locale, offrir ce lieu de communion fraternelle qui favorise la croissance spirituelle. Et vous dites tous Amen. Amen. Grâce à tes frères et tes sœurs, ensemble on grandit. Ensemble on grandit plus facilement. En effet, il y a 2 choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Se marier et être chrétien. Les chrétiens solitaires sont des fous. Laissez-moi vous dire ça. Je les aime. Mais ils sont fous, ils n'ont pas compris, ils passent à côté de quelque chose. Salomon va le dire, Proverbe 18, verset 1, « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Quand tu es tout seul, en train de vivre ton église virtuelle, tu vas commencer à être complètement confus, tu vas décider, « Non, mais en fait, on ne doit pas donner l'offrande comme ça, on doit louer comme ça. » Non, lorsqu'on se rassemble, on s'aiguise, on s'interpelle, on se corrige avec amour. Mais c'est ensemble qu'on doit grandir. Dieu ne nous a pas créés pour être solitaires. Qui c'est qui aime être seul? Personne, d'accord. De temps en temps, oui, c'est bien, quand il y a du bruit. Mais on n'a pas été créés pour être seul. On a été créés pour être ensemble. Et spécialement dans l'œuvre de Dieu, dans le plan de Dieu, son Église, être ensemble. La communion fraternelle est nécessaire pour grandir dans l'amour que Dieu nous donne les uns pour les autres. Nous apprenons à nous aimer lorsque nous sommes ensemble. Et ce n'est pas facile, je vous l'accorde. Ce n'est pas facile de s'aimer. Mais on peut pratiquer l'amour seulement si on a des personnes avec qui pratiquer. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr, vous, si vous êtes marié, vous le devez le pratiquer quotidiennement. Mais quand vous êtes avec l'Église, vous êtes aussi mariés les uns aux autres de manière spirituelle, engagés les uns avec les autres, cherchant à vous édifier, cherchant à vous encourager. C'est votre rôle, c'est notre rôle. Mais la communion fraternelle est aussi importante pour nous encourager, comme je le disais, et nous corriger dans le cas où nous serions en train de nous éloigner de la vérité. Si quelqu'un s'éloigne, dis-lui pas « Tchao mon frère, à bientôt », si jamais l'église est ouverte. Non, tu vas aller dans la parole, tu fais « Je crois qu'il y a quelque chose là que tu n'as pas compris, est-ce que tu veux qu'on prenne le temps ensemble de lire la parole ?» Vendredi, une fille est venue, je ne vais pas vous dire ce qu'elle m'a témoigné et partagé, elle m'a dit « Merci, j'étais tellement touchée, merci, merci de nous avoir dit la vérité, merci parce que vous nous guidez. » J'étais tellement touchée, vraiment le Seigneur m'encourageait parce que j'avais décidé de me positionner face aux choses qui avaient été transmises la semaine d'avant. Et les gens veulent entendre la vérité. Aujourd'hui, vous ne venez pas à l'église pour entendre une partie de vérité. Vous voulez la vérité parce que seulement la vérité vous affranchit, seulement la vérité vous libère. Et seulement la vérité vous amènera à Jésus et la vie éternelle. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. On veut prêcher seulement Jésus ici. Et je bénis le Seigneur parce que c'est le soi et le cœur de mes chers collègues. Lorsque vous venez le dimanche, j'aimerais vraiment vous encourager à pratiquer la communion fraternelle en demandant l'amour de Dieu pour votre prochain. Lorsque vous venez, Seigneur, ce matin, je ne suis peut-être pas disposé, mais toi, tu es disposé. Ton amour est prêt pour mon prochain, ton amour est prêt pour ton enfant. Disposez votre attitude et laissez Dieu agir. Et tendez la main, allez prier pour un frère, invitez-le à manger. Vous n'avez rien de préparé, ce n'est pas grave, il fera la salade, vous ferez les pâtes. Vivez la communion fraternelle. Laissez Dieu se répandre à travers l'amour que vous manifestez les uns aux autres. Parce que c'est par l'amour que vous vous manifestez les uns aux autres, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est ce que le verset que Dieu m'a donné quand je suis arrivé pour le groupe de jeunes, Jean 13, 34, 35. Un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Par l'amour que je vous ai aimé, j'ai tout donné pour vous. Est-ce qu'on donne tout pour notre frère et sœur ? Dans une manière pratique, pas juste « Oh, je t'aime mon frère, bah, bon courage avec tes finances, bon courage avec ton appartement, je t'aime. » Ouais, c'est facile ça, je t'aime. Et j'aimerais aussi vous encourager pour vous dire que c'est dans l'amour et l'unité que vient la bénédiction. Je ne vais pas vous relire le psaume 133, mais vous le savez. Lorsqu'il y a l'unité, lorsque le peuple est rassemblé, c'est comme l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron. C'est là où la bénédiction de Dieu se propage. C'est pour ça que c'est bien qu'on se rassemble. Ce n'est pas juste parce qu'on a décidé de se rassembler, c'est parce que c'est biblique. Amen. Donc je dis la vérité ici, c'est les paroles de Dieu. Et lorsque nous prenons la Sainte Cène, lorsque nous fractionnons le pain, j'aimerais vous dire une chose, lorsqu'on est ici, lorsqu'on vient dans ce temps de Sainte Cène, on se rappelle une chose, c'est le corps de Christ et c'est son sang qui nous sauve. C'est le corps de Christ qui a tout payé pour que sa gloire soit élevée ici dans ce lieu. Ce n'est pas à propos d'un homme, c'est à propos de Jésus. Et c'est pour ça que quand on se rappelle de la table, on se rappelle que tout est pour Jésus, de Jésus pour lui. Ça vient de lui, pour lui, par lui. Amen. Et c'est pour ça qu'on fait ça. C'est, bien sûr, on se rappelle, merci pour ton corps, mais on se rappelle, c'est lui justement, c'est à lui qu'appartient la gloire. À lui seul. À lui seul. L'Église est un trésor que Dieu nous donne et nous devons le protéger et l'aimer afin qu'il ne soit pas abîmé. C'est mon dernier point ce matin. L'Église, un lieu à protéger et aimer. Amen. Protéger et aimer. Combien d'entre vous êtes d'accord de dire qu'il est souvent plus facile de voir ce qui ne va pas dans l'Église que ce qui va bien ? Aujourd'hui, je n'ai pas aimé les chants. Je trouve que la lumière, elle m'éblouit trop. Je trouve qu'on n'entend pas bien le prédicateur. Je n'ai pas aimé sa prédication. C'est très facile de voir les choses qui ne vont pas. On a tendance, je ne sais pas pourquoi, à voir la poutre alors qu'on a, non, de voir la paille alors qu'on a une grosse poutre. Je ne sais pas pourquoi, mais la faculté humaine est de trouver les erreurs. Chercher l'erreur. C'est quand même fou. On est tellement fort pour ça. Nous avons vite tendance à oublier que l'Église n'est pas un lieu parfait, mais un lieu de perfectionnement. Tu l'as dit, j'étais tellement encouragé. À la perfection, on vient dans le perfectionnement. Quand on est ici, on n'est pas parfait. Amen. S'il y a des gens parfaits, venez me voir, vous me donnez votre recette. C'est un lieu de perfectionnement. De plus, elle n'a pas été créée pour notre satisfaction personnelle, mais pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que, j'espère que je ne suis pas trop dur, mais je suis sincère, je vous aime, et on doit comprendre ce qu'est le plan de Dieu pour l'Église. Elle est pour sa gloire. Quand on vient ici, on ne vient pas pour se faire du bien. Si on a mal aux fesses, alors prenez un coussin, mais on vient louer Jésus. On vient louer Jésus. On vient chercher à ressembler à Jésus en pratiquant l'amour les uns avec les autres à travers son Saint-Esprit. L'Église est comme un chantier, d'accord ? Quand vous arrivez à l'Église, imaginez-vous, c'est un grand chantier. Il y a plein de choses en travaux, des choses des fois vraiment en travaux, mais en fait, c'est nous qui sommes en travaux. On est en construction. Pour certains, vous avez déjà le 10e étage, l'échafaudage, il est prêt. Pour d'autres, vous êtes à peine en train de construire les bases. Pour d'autres, vous êtes déjà à la peinture. Il y en a qui sont même déjà à l'air conditionné. C'est la classe. On est tous à un stade différent. Et laissez-moi vous poser la question. Quand vous avez un chantier, est-ce que le chantier est ouvert à n'importe qui ? Le chantier est toujours protégé. Vous n'entrez pas sur un chantier. Il y a toujours des barrières de protection. Et vous savez quelles doivent être les barrières de protection pour notre chantier ? L'amour. On doit protéger celles qu'on aime. Ce que Dieu a placé à côté de nous, on doit les aimer. Pas dire, ouais, lui il a fait ça, mais pourquoi il a fait ça, il n'a pas compris la parole. Oui, peut-être toi, tu es déjà t'es déjà grandi. Ton rôle, c'est de l'aimer, de l'amener plus loin, c'est pas de le juger, de dire, ouais, toi, tu n'as pas compris ça. Ben, c'est ce qu'on fait des fois. On est là, on dit, ouais, mais lui, pourquoi il vient encore avec des shorts ici ? Mais peut-être parce qu'il est en train d'être sanctifié, il est en train d'être perfectionné. Il n'a pas encore tout compris. Toi, tu vas vers lui, tu l'aimes. Tu viens dire, tu sais, dans la parole, on parle de ça. Ah ouais, c'est vrai. Et prie que le Saint-Esprit te donne la sagesse de lui parler avec amour. Donc, j'aimerais vous rappeler, lorsque vous entrez dans l'Église, rappelez-vous que vous vous trouverez devant des personnes plus faibles et certaines plus fortes et qu'elles sont tous et toutes en processus de croissance. Moi inclus, les amis. Je ne suis pas mieux que vous, je suis en croissance. S'il vous plaît, ayez grâce aussi envers moi. Je ne suis pas plus parfait. J'ai plus de responsabilités, c'est sûr. Mais je suis aussi en croissance. Il y aura aussi des choses qui ne vous conviendront pas par rapport à votre personnalité, votre manière de faire. C'est normal. Parce que c'est l'humain parfait qui est l'outil de Dieu. Donc il y a des imperfections. Mais cherchez à laisser la place à Jésus et lui demander comment il voit son Église. C'est lui le maître du chantier. Est-ce qu'on lui demande comment c'est quoi le projet pour cette personne ? Où on est là, ouais, t'as vu, il n'a même pas encore la peinture, il n'y a même pas l'isolation. Seigneur, c'est quoi ton projet ? Waouh, une tour de 15 étages. Si vous voyez Jésus, la manière dont il voit vos frères et vos sœurs, je peux vous dire, les paroles que vous aurez pour ces personnes seront très, très différentes de celles qu'on peut penser nous-mêmes. Parce que ça sera des paroles de vie et des paroles d'espérance, des paroles d'aboutissement, parce que Dieu a déjà le projet fini. Comme j'ai déjà dit plein de fois, je pense que peu de gens auraient investi en moi il y a 15 ans. Peu de gens auraient investi en disant « Ouais, lui, il va être pasteur. » Non. Mais Dieu, il était en train de faire son œuvre. Et dans la patience et la persévérance, voilà le résultat. J'aspire et j'ai prié que les années passant, je m'approcherai de Jésus, je deviendrai davantage conforme à sa nature. Et que l'œuvre qu'il a commencé, je sais qu'il la complétera. Philippiens 1, 6. Oui, nous vivrons parfois des déceptions dans ce lieu, et c'est la réalité. Mais si nous sommes d'accord de voir l'Église avec les yeux de Jésus, nous changerons certainement d'attitude, et nous pourrons voir son amour agir avec puissance. Le dernier passage que j'aimerais vous partager, c'est 1 Thessaloniciens 5, les versets 12 à 15. Paul qui vient nous enseigner. Nous vous prions, frères et sœurs, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix envers tous. Nous vous en prions aussi, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Amen. Une petite description de la vie communautaire. Paul nous exhorte à prendre soin, à chérir son Église, l'Église de Dieu vivant. Prends-en soin. Et il commence par dire, prenez soin et ayez affection, considérez ceux que Dieu a placés pour être vos responsables. Parce que ce n'est pas un rôle facile. Alors il le dit bien, considérez-les, ayez de l'affection pour eux. Et là, je ne parle pas que pour les pasteurs, je parle pour vos leaders, les leaders de louange, qui prennent du temps, qui doivent répéter, les responsables de l'enfance, les responsables de la technique, toute personne qui a été placée comme responsable. Prenez soin, ayez de l'affection envers eux. Ne soyez pas trop rapide, s'il vous plaît, lorsqu'ils ont fait une erreur, parce qu'ils en feront, de lancer une pierre par impulsivité. Regarde ce qu'il a fait, t'as vu ce qu'il a dit le pasteur, t'as vu le chant, il a fait une faute dans son chant. Moi, je chante très différemment. Non. Ayez de l'affection pour eux. Considérez-les. Parce que si Dieu les a placés, même si l'humain veut prendre la place de Dieu, Dieu, ils auront des comptes à rendre. Vous inquiétez pas, j'aurai les comptes à rendre. Si j'ai fait des erreurs dans mes choix, il n'y a pas besoin de me le dire forcément, « Ouais, t'es nu !» Non. Ayez de l'affection, considérez, priez. Moi, j'aurai mes comptes à rendre, vous aurez vos comptes à rendre. Parce que si vous me jugez, si vous jugez les personnes, je dis ça, là je parle de moi au pasteur, mais si vous avez cette attitude envers vos responsables dans l'Église, sachez que vous êtes en train de devenir le juge et vous serez vous-même jugé. Lorsque vous venez à l'Église, attendez-vous à Dieu et non pas à une performance humaine. Comme je l'ai déjà dit, ceux et celles qui ont des rôles de responsables dans l'Église peuvent parfois faire des erreurs. Accordez-leur votre soutien, votre affection. Pratiquez la grâce envers eux. Ils ne sont pas parfaits. Tout comme vous, ils sont en phase de perfectionnement. Priez pour vos responsables avec un cœur sincère. Dieu vous entendra. Si quelque chose ne fonctionne pas de manière biblique, parce que Dieu vous l'a révélé, vous pouvez aller vers la personne et la confronter avec amour. Il est bon de faire ça. Mais ensuite, priez. Mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux et priez. Parce que Dieu va agir, c'est son Église. Si vous priez, vous demandez son cœur pour l'Église, « Seigneur, je crois que là, il y a quelque chose qui manque ou il y a quelque chose qui ne va pas », Dieu va répondre aux besoins de son Église. Mais mettez-vous à genoux devant Dieu. Implorez sa grâce, implorez son amour pour les personnes qui sont autour de vous, même si elles ne lident pas de la même manière que vous. Si Dieu les a placées, Dieu peut aussi les enlever si ce n'est pas les bonnes personnes. Mais votre attitude et vos prières vont aussi avoir un rôle positif ou négatif sur l'ensemble de l'Assemblée. Si vous propagez une rumeur de la critique, vous allez détruire l'unité de l'Église. Et laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit ne descendra pas. Mais si vous choisissez d'être aimant, bienveillant, ayant de l'affection pour ceux qui vous amènent au Seigneur, laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit descendra avec joie devant un peuple qui s'humilie devant lui. Venez dans la maison du Seigneur avec un cœur de serviteur, prêt à donner avant de recevoir, ayant le désir de faire le bien, même si vous ne le recevez pas en retour. Soyez en paix envers tous. La paix favorise l'action de Dieu. Le désordre empêche l'action de Dieu. Car il est certain, et alors que je vais terminer, c'est exactement la parole qui a été aussi donnée ce matin, car il est certain que lorsque Jésus reviendra, il voudra trouver son Église prête pour lui, sainte et sans tache ni ride, fraîche et animée par l'Esprit. Éphésiens 5, verset 27, « Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Cette Église, c'est vous et moi. Et nous avons besoin des uns et des autres afin de pouvoir nous préparer pour le jour où Jésus reviendra reprendre son Église. On l'a entendu ce matin, c'était sur mon message. Parce que Dieu veut mettre peut-être un clou, il veut dire, est-ce que vous êtes prêts au retour de Jésus? Est-ce que votre attitude est pure devant Dieu? Parce que s'il revient maintenant, est-ce que vous êtes prêts? Vous avez peut-être encore des choses, vous devez demander pardon, peut-être vous n'avez pas encore compris certaines choses. Parce que Dieu revient bientôt, et j'en suis aussi convaincu. Priez le Seigneur pour qu'il vous donne son amour pour l'Église et qu'il vous montre quelle place il désire que vous preniez dans son corps. Amen. Car l'Église ne peut pas fonctionner seule. Elle marche bien lorsque chaque partie du corps prend sa place et obéit pleinement à sa tête qui est Jésus. Amen. Donc nous, on est un pantin, hein, vous imaginez Pinocchio, et la tête c'est Jésus. Bouge ici, bouge là, comme ça, vous voyez ? C'est comme ça. Mais il faut qu'on soit liés les uns les autres. Parce que si tu as une superbe main mais qu'elle n'est pas rattachée au bras, ça ne va pas faire grand-chose, tu ne pourras pas faire comme ça. D'accord ? Je ne pourrais pas te dire bonjour. On doit se lier les uns les autres, on doit se servir les uns les autres, on doit prendre la place que Dieu a prévue parce que vous avez une place dans le corps du Christ. Personne ne pourra prendre votre place. Alors que je termine ce message, merci pour votre patience et merci Seigneur parce que tu as agi. J'aimerais vous dire que je vous aime vraiment et je prie que le Seigneur me donne davantage d'amour pour chacun d'entre vous. Qu'il me permette de me battre pour vous dans la prière, d'intercéder pour que chacun d'entre vous connaissiez Jésus pleinement, personnellement. Il est vrai que ce n'est pas facile tous les jours, mais c'est un privilège que de voir Dieu agir dans vos vies et de le voir vous façonner à son image. Il est aussi vrai que nous ne connaîtrons pas l'Église parfaite ici sur terre, mais le Dieu parfait que nous servons nous aidera certainement à vivre son plan si nous lui laissons la direction totale. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Église de Jésus-Christ doit rayonner par son exemple, qui symbolise une vie régénérée par l'Esprit, où l'amour et la sainteté de Christ sont les moteurs de notre attitude. Laissons le Saint-Esprit nous conduire et nous enseigner à aimer l'Église dans laquelle il nous place, afin que d'un commun accord nous puissions vivre ses bénédictions et sa puissance pour nous et tous ceux et celles qui sont appelés à nous rejoindre ici à l'Église de Réveil de Genève. Que notre témoignage rayonne de l'amour de Dieu, d'une vie régénérée par l'Esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, ils étaient 120, tous différents, de couleurs, de langues différentes, on le sait. Mais ils avaient un seul désir, obéir à Dieu, lui donnant la gloire, persévérant dans la prière. Alors l'Esprit est agi, alors l'Esprit est tombé, alors l'Église a démarré. Aujourd'hui, on a besoin de ça, mes chers frères et sœurs. De se retrouver d'un commun accord, unis, pour rendre gloire à Dieu, demander pardon à ceux, peut-être, qui vous ont offensé, vivant l'amour et laissant le Saint-Esprit nous remplir puissamment pour que l'Église rayonne avec puissance pour montrer qui est Jésus. Amen.